Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler, sans c'est l'objet de la première partie, j'aimerais vous parler de quelque chose qui me paraît important. Dans la deuxième partie, dans l'après-midi, ça serait davantage de vous parler d'Haïti, du pays d'Haïti, des choses sur la réalité du pays, la pauvreté, le gouvernement et tout ça, plus concret. Mais ce matin, c'est plus important, je vous parle de pas quelque chose qui est là, qui est nouveau pour vous. Je vais vous dire que bon Dieu est amour. Vous avez déjà entendu ça, hein? C'est Saint Jean qui l'a écrit dans sa première lettre. On dit que Saint Jean, quand il était vieux, il radotait. Un peu comme moi, des fois, là. Et qui répétait que Dieu est amour. Dieu nous aime. Aimez-vous les uns les autres. Pour lui, tout ça se résumait dans cette réalité de Dieu est amour. Dieu nous aime. Jésus nous aime. Donne sa vie pour nous. C'est ce que j'aimerais regarder ce matin à travers un personnage, l'apôtre Saint-Jean, justement, celui qui a écrit l'Épître, de regarder un peu quelque chose qui est personnel. Ce qui était, vous savez, Saint-Jean, Saint-Jean a écrit un évangile qu'on appelle l'évangile de Saint-Jean. Il y a trois autres évangélistes, Saint-Matthieu, Saint-Marc et Saint-Luc. Ce qui est étonnant, c'est que les trois évangélistes, Saint-Marc, Saint-Luc, quand ils ont nommé les apôtres, ils ont nommé tous les apôtres, y compris le nom de Jean, l'apôtre Jean. D'ailleurs, il faisait partie des quatre premiers, Pierre, Jacques et Jean. C'est un apôtre important, reconnu par les autres évangélistes. Puis quand on lit l'évangile de Saint-Jean, que lui aurait écrit, quand on lit cet évangile-là, jamais le nom de l'apôtre Jean n'apparaît. Est-ce que c'est parce qu'il était trop gêné, lui qui écrivait un évangile, est-ce qu'il était trop gêné pour se nommer lui-même? On ne retrouve pas le nom de Jean. C'est vraiment étonnant. Moi, ça m'intrigue. C'est peut-être parce qu'il y avait quelque chose de plus important à nous enseigner dans l'Évangile. C'est peut-être parce qu'il y avait un nom encore plus important que celui de Jean. Quand on regarde dans l'Évangile, je dirais, dans le premier contact que Jésus a eu avec les disciples, il y a deux disciples qui se mettent à le suivre. Jésus dit, « Qu'est-ce que vous cherchez? » Ben, où est-ce que tu demeures? Et le texte va nous dire, un peu plus loin, il y avait André, c'est ça, c'est André, et l'autre disciple. Mais André est allé voir son frère, et puis bon, on a appris le nom du premier, un des deux, mais l'autre, on ne sait pas. Mais Jean, qui a écrit l'Évangile, il a nommé à ce moment-là, il a dit à ce moment-là, un moment extrêmement important. Vous savez, les moments importants, là, on se souvient où est-ce qu'on était. On se souvient de l'âme. Alors, le texte vient nous dire, c'est l'évangéliste qui a dit, c'était à la quatrième heure, à l'après-midi. Ça l'avait beaucoup, beaucoup rejoint, mais on ne sait pas son nom. Ça n'a pas marqué. C'était... Mais, à un moment donné, Jean était avec les apôtres, avec Jésus, à la fin de sa vie. Et c'est là qu'on retrouve quelque chose de neuf. Jean ne se nomme pas, mais il va dire le disciple que Jésus aimait. Le disciple que Jésus aimait. Et tout le monde dit, mais c'est Saint Jean lui-même. Mais il ne se nomme pas, ce n'est pas son nom. Et c'est bien de regarder à quel moment ce nom-là émerge. La première fois qu'on le voit, c'est à la dernière scène. C'est un moment très, très chargé affectivement. Jésus vient de dire, c'était au cours du repas, il y avait la lavé le pied de ses disciples, il avait institué l'Eucharistie, Jésus dit, il y en a un parmi vous qui va me trahir, qui va me livrer. Jésus l'a dit avec beaucoup d'émotion. Le texte vient nous dire. Hein. Mais personne n'osait poser la question, qui est-ce que c'est? Ah, Pierre voit Jean qui est à côté de Jésus. Pose-lui la question. Et le disciple que Jésus aimait, voici le texte. Après leur pas, dans la dernière scène, un des disciples, celui que Jésus aimait, se trouvait à côté de lui. Simon-Pierre lui dit, lui fait signe, demande de qui il parle. Le disciple se pencha alors sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce ?» Il fallait que Jean ait de l'audace pour poser cette question-là. Mais les autres étaient gênés, j'imagine. Mais lui, il a eu de l'audace. « Seigneur, dis-nous qui est-ce que c'est ?» Il voyait Jésus qui était troublé. « Seigneur, dis-nous qui est-ce que c'est ?» Le disciple que Jésus aimait avait une proximité avec Jésus. D'ailleurs, on le dit, il s'est penché vers le cœur de Jésus. Il était juste à côté. Il avait une proximité qui lui a donné une audace, vous allez voir, encore plus grande. Le deuxième endroit où on voit Jésus, les questions de Jésus, du disciple que Jésus aimait, c'est au pied de la croix. Alors que tous les autres disciples sont partis, se sont sauvés, Pierre a renié trois fois, lui, Jean, le disciple que Jésus aimait, était là. Il y avait comme une force à l'intérieur, une force qui était, que les autres n'avaient pas, une force et une compassion. Lui n'a pas refusé de voir Jésus descendre si bas. Et il était là au pied de la croix avec Marie. Alors le texte nous dit ceci. Cloué sur la croix, Jésus, voyant ainsi sa mère et auprès d'elle, le disciple que Jésus aimait, il dit à sa mère, « Voici ton fils. » Il dit ensuite au disciple, « Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Il y avait une force dans ce disciple-là. Le disciple que Jésus aimait. Il y a un autre moment aussi où on retrouve, je dirais, le nom du disciple que Jésus aimait. Rappelez-vous, après la résurrection de Jésus, Jésus est ressuscité et puis le tombeau est vide. Et Marie-Madeleine va au tombeau, elle découvre le tombeau vide. Et à ce moment-là, elle revient auprès des disciples et puis elle dit ça. Oh, Pierre et Jean, et le texte vient le dire, hein? Marie-Madeleine court auprès de Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et qu'est-ce qui arrive? Pierre va courir. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Pierre va courir. Et puis, mais c'est Jean qui arrive le premier. Pierre, quand Jean n'entre pas, Pierre vient. Il voit des linceuls qui étaient pliés. Ah, c'est vrai, Jésus n'est pas là. Mais le texte ajoute quelque chose. Et ça, c'est très, extrêmement important. C'est alors que l'autre disciple, celui que Jésus aimait, arriva en premier, entra à son tour dans le tombeau, et il vit et il crut. Pierre a vu la même chose que Jean, Pierre lui a dit « Ah !» puis il est parti. Jean a vu les linceuls, et lui a compris que Jésus était ressuscité. Lui que Jésus aimait lui a comme donné la force, parce que Jésus, il se sentait aimé, il s'est senti être aimé. Il avait comme un regard neuf sur la réalité. De se savoir aimé, de se sentir aimé, ça donne des forces, ça donne du courage, ça donne de l'audace. Et ici, ça donne un regard neuf. C'est la même, quelque chose d'un peu semblable aussi qu'on trouve. Jésus est ressuscité, les apôtres disent on s'en va à la pêche, ils sont partis à la pêche, et puis Jésus se trouve, marche près du bord du lac, il demande est-ce que vous avez-vous du poisson? Ils disent on n'a pas pris de poisson. Alors Jésus dit jetez vos filets de l'autre côté de votre barque. Mais imaginez, il y a autant de poissons d'un côté que de l'autre. S'il n'y en a pas d'un côté, il n'y en aura pas d'autre. Mais les autres ont été obéissants à ce que cet homme-là, cet individu-là, a dit. Mais ils ne reconnaissaient pas Jésus. Ils l'ont fait, puis il y a eu une pêche miraculeuse. Et c'est alors que Jean, le disciple que Jésus aimait, a dit, mais c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Et puis là, Pierre, il s'est habillé, il est allé vers Jésus. Le disciple que Jésus aimait, il a vu les mêmes choses que les autres. Les autres n'ont pas reconnu le Seigneur. Qu'est-ce qui fait que Jean a été différent de Jésus? Est-ce que ce n'est pas justement cette réalité pour lui de se sentir aimé par Jésus, de se savoir aimé par Jésus, et son nom à lui, dans l'Évangile, c'est un peu comme s'il disait, mon nom à moi, c'est celui que Jésus aimait. Il fait mention aussi du nom du disciple que Jésus aimait, un peu plus loin, quand Pierre dit au Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Bon. Mais ce qui est important de voir, c'est de se savoir aimé de Dieu, ça a changé la vie de Jean. Est-ce que c'est parce que c'est par fierté en disant, ben regardez, moi, Jésus, il m'aime. Mais Jésus aimait tous les autres. Et Jésus aimait tous les autres. Pierre, Jésus, quand tu as rencontré Pierre, après la résurrection, il a posé à Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Rappelez-vous, Pierre, qui avait renié Jésus trois fois, il dit, oui, tu sais bien que je t'aime. Il ne fait plus de comparaison avec les autres. Ben, je dirais, celui que Jésus aimait, Jean, il ne fait pas de comparaison avec les autres. Le disciple que Jésus aimait, il ne dit pas qu'il était aimé plus que les autres, il était aimé, point. De se savoir aimé, ça change tout. Pourtant, quand on regarde un peu plus loin, Jean n'était pas encore Saint-Jean. Dans l'Évangile, on dit le nom que Jésus leur a donné à Jean et à son frère, c'est les fils du tonnerre. Ils doivent avoir un peu d'énergie et de la colère, ces gens-là. Et puis, à un moment donné, Jean était en Samarie, et puis il a dit, c'est ça, Seigneur, est-ce que tu veux que nous disions que le feu tombe du ciel et les consume? Il avait été mal reçu par les gens de Samarie. Et puis Jésus se retourna, lui dit, les réprimandant. Saint Jean, il n'était pas doux. Non. Ils nous ont mal reçus, il faudrait les. Ou il y en a d'autres qui faisaient la prédication, et puis ils faisaient des miracles, mais ce n'était pas au nom de Jésus. Saint-Jean, c'est fâché. On a cherché à les empêcher. Et Jésus a dit, celui qui n'est pas contre vous, est pour vous. Mais c'est pour vous montrer que Saint-Jean, c'était pas un parfait. Il était violent, il était peut-être jaloux aussi. Puis rappelez-vous, Rappelez-vous la mère de Jacques et Jean. Dans l'Évangile, c'est la maman, on comprend. La maman veut toujours que ses fils soient élevés. Ou bien, dans un autre Évangile, c'est les disciples eux-mêmes qui demandent. On voudrait être l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. C'est pas mal d'orgueil, ça, hein? C'est pas mal d'orgueil. On veut être au-dessus des autres. Saint Jean, le disciple que Jésus aimait, dans un sens, Jésus aimait Jean, pas parce qu'il était parfait, il l'aimait parce qu'il l'aimait. Et c'est ça que Saint Jean a compris. Il était aimé. Et ça a changé son regard complètement. Ça lui a donné une audace auprès de Jésus, on l'a vu là. Mais surtout, ça lui a donné la force de passer à travers l'épreuve la plus grande, celle de voir Jésus mourir, d'être là, lui, à côté de la croix. Mais cette force-là aussi, je dirais, lui avait aussi, de se savoir aimer, ça lui donnait aussi un regard neuf sur les événements. Ce que les gens voyaient autour de lui, Pierre voyait juste des linceuls qui étaient dans le tombeau, c'est des linceuls. Mais lui, c'est parce que Jésus est ressuscité. Quand, au moment de la pêche miraculeuse, les autres disent « Ah, c'est extraordinaire, on a des poissons. » Mais lui, il a vu quelque chose de plus que les poissons. Il a vu la présence du Seigneur. Et je veux dire, c'est ça que Saint Jean a découvert. Il était aimé. Il était aimé de Jésus, pas parce qu'il était parfait. Il était aimé de Jésus. Le disciple que Jésus aimait, il me semble qu'on pourrait être un peu, se considérer un peu comme le disciple que Jésus aimait. Ou je dirais encore bien davantage, mon nom à moi, mais vous pouvez le dire aussi à chacun, je suis le disciple que Jésus aime, pas aimé, que Jésus aime aujourd'hui. Pas parce que vous êtes parfaite, pas parce que vous êtes parfait, pas parce que vous êtes saint ou sainte, non, Jésus même vous aime. Parce qu'il vous aime. Parce que c'est ça, je dirais, l'évangile de Jésus. Il nous aime alors qu'on est imparfait. Saint Paul va le dire, on nous aime parce que on est pécheurs et c'est ça, c'est notre misère qui les attire. Donc, j'aimerais, ça serait, je souhaiterais que, à l'intérieur de vous, acceptiez que Jésus vous aime et qu'il vous aime malgré tout, sans aucune réserve, sans aucune, complètement, de façon absolue. C'est ce que j'aimerais que vous, que nous retenions, parce que c'est aussi un défi pour moi. Vous savez, on a plein de résistance. On va dire, oui, Dieu m'aime, mais c'est comme s'il y avait à l'intérieur de nous une sorte de réserve. Oui, il m'aime parce que je fais quelque chose de bien. Oui, il m'aime parce que j'ai fait des efforts. Oui, il m'aime parce que je prie. Oui, il m'aime parce que... Moi, je dis, il m'aime, point. Et ce qui est vrai pour moi, c'est vrai pour les autres, et c'est vrai pour le pire des hommes, le tueur, celui qui va violer les filles, celui qui va voler, de celui qui... Dieu aime, Jésus aime. Et c'est ça la réalité de Jésus. Quand Saint Jean dit « Dieu est amour », c'est ça, il veut le dire d'une façon absolue. Pas simplement pour les bons. Dans l'Évangile, Jésus dit, hein, Dieu, il n'envoie pas simplement la pluie. pour les bons, pour faire pousser, ou le soleil, il envoie la pluie indistinctement pour les bons et les méchants. Il envoie le soleil pour les bons. Dieu aime tous les hommes. Dieu m'aime, moi, je suis le disciple que Jésus aime. Mais comment ça se fait qu'il y a à l'intérieur de soi une sorte de réserve? Comment ça se fait que c'est difficile, je vais parler pour moi, de croire que Jésus m'aime sans réserve? Il y a une amie qui me disait, Dieu, il ne peut pas m'aimer plus parce qu'il m'aime au maximum. J'admirais cette femme-là, puis au fond, elle avait une vie, et on le sentait, que sa foi, parce qu'elle se sentait aimée, elle avait une sécurité, une foi. Comment ça se fait qu'il y a à l'intérieur de nous quelque chose qui dit, c'est vrai, mais peut-être qu'il y a encore des affaires, là, et c'est pas si vrai que ça. Il y a des bouts de ma vie que Dieu n'aime pas. C'est peut-être parce qu'on est encore au bon Dieu de l'Ancien Testament et qu'on n'est pas encore arrivé complètement au bon Dieu que Jésus est venu nous annoncer. Le bon Dieu de l'Ancien Testament, c'est un bon Dieu qu'on pouvait comprendre. Et dans l'Ancien Testament, c'est beaucoup développé comme ça. Si je fais quelque chose de bien, si je suis injuste, Dieu va me récompenser. Et si j'agis mal, Dieu va me punir. Et puis, ben, c'est ce qu'on voyait. Hein? Le peuple israélien a péché, il adorait d'autres dieux, puis bon, ils ont été punis. Ça, c'est Dieu de l'Ancien Testament. Dans le prophète Jérémie, il y a une phrase, je pense que pour moi, qui me rejoint toujours. Jérémie dit, « Le cœur de l'homme est compliqué et malade. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur, qui scrute les reins et les cœurs, et qui juge selon les actions. » Ça, je pense qu'un psychologue pourrait dire, c'est vrai ce qui est marqué. Le cœur de l'homme est compliqué et malade. D'ailleurs, c'est ce qui permet au psychologue de pouvoir vivre. Hein? Le cœur de l'homme est compliqué et malade. Mais le texte vient nous dire, ben moi je connais le cœur de l'homme, et puis s'il agit bien, je vais le récompenser. Si j'agis bien, je vais le punir. Je ne serai pas avec lui. Ça, c'est un texte de Jérémie de l'Ancien Testament. Mais Jésus, lui, qu'est-ce qu'il va dire? Je modifie un peu la formule de Jérémie. Parce que c'est justement là qui est toute la différence. La formule que Jésus, dans ma tête, dirait, ce serait celle-ci. Le cœur de l'homme est compliqué et malade. D'ailleurs, dans l'Évangile, on entend hein, souvent, « Oh, Jésus, il connaît le cœur de l'homme. » Le cœur de l'homme est compliqué et malade. Qui peut le connaître? Dieu, le Seigneur, le connaît. Mais le Seigneur ne juge pas selon les actes, mais juge selon sa miséricorde. C'est important de voir la différence. C'est important de voir la différence. Il y a le pape disait à des prédicateurs, à l'occasion des prédicateurs, à l'occasion de démarches pénitentielles, vous savez, et puis des démarches pénitentielles, on prépare pour la confession et tout ça. Puis il dit, regardez bien qu'est-ce que le pape disait. C'est le pape actuel, Benoît XVI. Il dit, demandez aux prédicateurs de parler moins du péché et de parler beaucoup plus de la miséricorde de Dieu. Parce que c'est ça qui est tout le changement. Jésus est venu sur la terre pour nous sauver. Il ne regarde pas le péché, mais il regarde notre misère. Et c'est ça, tout le changement. Parce qu'il voit notre misère, il a décidé, il a voulu donner sa vie pour les pécheurs que nous sommes. Les péchés sont effacés. Ah, c'est sympa de le dire. Là où le péché abonde, l'amour surabonde. C'est important de se rappeler ça, parce que sinon, on reste toujours avec une idée de l'Ancien Testament. Vous allez dire, oui, mais ça serait trop. Avec ça, c'est trop facile, hein? C'est le reproche que le fils prodigue, le fils aîné fait à son père, à son père, hein? Lui, mon frère, il est allé avec les filles, il a dépensé l'argent, puis c'est la fête. Et puis moi, j'ai été fidèle avec toi. Moi, j'ai été correct. Et puis, je n'ai pas des fêtes comme lui. Il ne comprenait pas qu'est-ce que c'est la miséricorde du Père. On a peut-être aussi beaucoup de misère à comprendre la miséricorde de Dieu. On a de la difficulté à comprendre la miséricorde de Dieu. Les gens vont dire, notre Dieu, c'est un Dieu trop bonasse. Non, c'est un Dieu qui a aimé, mais ça a coûté cher. C'est un Dieu qui a voulu se faire petit, pauvre, au point de mourir. Il y a quelqu'un qui parlait des musulmans, et puis qui disait qu'il y avait beaucoup d'estime pour les musulmans, pour la vie spirituelle des musulmans. Il y avait beaucoup, beaucoup d'estime. Et la spiritualité, la prière des musulmans et la révérence que les musulmans peuvent avoir vis-à-vis de Dieu, le Dieu qui est grand. Mais dit, ce qui me rend triste, c'est qu'un musulman n'est pas capable de comprendre que notre Dieu a dit, il est mort sur une croix. Par amour. Ça, c'est pas possible que Dieu, lui qui est grand, meure sur une croix. Les Juifs n'ont pas compris. Il y a quelque chose de scandaleux. Mais c'est peut-être scandaleux pour celui qui voudrait avoir un Dieu fort, puissant, qui règle les affaires comme un juge strict, qui voudra. Mais c'est pas ça notre Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu qui aime jusqu'à la limite. Avant de la dernière scène, le texte de Saint Jean nous dit, juste avant le lavement des pieds, Jésus qui a aimé le monde, qui a aimé les siens qui sont dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Il ne pouvait pas aller plus loin, jusqu'à l'extrême. Ceux qui sont Jésus qui a aimé les siens qui sont dans le monde, pas dans une terre facile, dans le monde, avec tout ce que le monde qui est autour de nous. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver. En créole, on dirait Dieu a si tellement aimé le monde. Parce que en créole, souvent, on fait des expressions comme ça, un peu redondantes. Dieu a si tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils pour sauver le monde. Je dirais, ça, c'est important de regarder ce fait. Et quand le monde dans lequel qui est mentionné, il a si tellement aimé le monde, c'est le monde dans lequel on se trouve aujourd'hui. Où il y a des guerres, où il y a des vols, où on dit ah, ça n'a pas de bon sens. C'est ce monde-là que Dieu a aimé. Il n'a pas aimé tout proche, il l'avait aimé au point de donner son Fils, envoyer son Fils pour changer le monde. Je descends un peu plus, d'une façon plus personnelle, je reviens à ce. Donc je descends de façon un peu plus personnelle, je reviens à l'expression « le disciple que Jésus aimait ». J'aimerais que chacun ici, on s'approprie ce titre-là, que notre nom, notre nouveau nom soit « Je suis le disciple que Jésus aime ». Et à la limite, ou jusqu'au bout, on ne peut pas aller plus loin. Si à l'intérieur de vous, vous laissez, si à l'intérieur de nous, parce que je m'inscris dans ça, parce que c'est toujours une bataille, hein, si on laisse à l'intérieur de nous, je dirais, pénétrer cette assurance que Dieu m'aime, à ce moment-là, il n'y a plus rien qui peut nous faire peur. C'est dans l'évangile de Saint Jean aussi, quelque part, j'avais ça sur un petit papier, hein? Un instant. Ah oui, si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. C'est ça souvent la réserve qu'on a. On dit on n'est pas parfait, on n'est pas... Non. Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Si notre cœur ne nous accuse plus, c'est le texte qui dit, alors nous devons nous adresser à Dieu avec confiance. De se savoir aimé, c'est la réalité d'un petit enfant. De se savoir aimé, ça donne confiance à un enfant. Et je dirais, on pourrait dire, oui, mais Dieu m'aime, comment je peux répondre à l'amour de Dieu? Au fond, regardez un petit enfant. Quand il se sent aimé, il répond par la confiance, il répond par l'abandon. Il n'y a pas les mots, mais il se laisse comme aller entre les bras de sa mère. Bon. Mais je connais des enfants, et on les appelle des enfants malades, des autistiques, qui refusent, et c'est la grande souffrance d'une mère de famille, son petit bébé de 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, il ne veut pas s'approcher, il ne veut pas que sa mère l'approche. C'est une manière pour lui de refuser. Devant l'amour, on peut dire oui, puis on peut dire non. Vous savez, entre les gens, hein, on peut dire oui. Mais comment dire oui à Dieu? Et puisque l'amour de Dieu veut être complet, comment dire oui complètement? Sinon, par la confiance. Si notre cœur ne nous accuse plus, alors on peut s'abandonner à Dieu. Il ne nous tapera pas dessus, il nous ouvre ses bras. Et c'est ça qui est important de découvrir. Et cette assurance que Dieu m'aime, c'est une assurance qui va me donner un regard neuf sur le monde autour. Alors que les gens vont dire « ça va mal dans le monde », je pourrais dire « oui, mais on peut regarder autrement. Dieu nous aime. Dieu est là pour apporter un message neuf à notre monde d'aujourd'hui, un message d'espérance. Si nous nous sentons et nous nous savons et nous avons la conviction profonde que Dieu nous aime, pas qu'il aime le monde en général, donc un petit peu à la fois pour chacun, comme il nous aime profondément, il a donné, Saint Paul le dit, il a donné sa vie pour moi, alors que je suis pécheur. Quand on se laisse comme envahir par cette réalité-là, je suis sûr qu'il y a à l'intérieur de nous une force neuve. Je suis sûr qu'à l'intérieur de nous, il y a un regard neuf sur les réalités qui nous arrivent à nous, des difficultés et un regard neuf sur le monde qui est autour de nous. Donc, pour moi, je vous inviterais à rentrer dans cette réalité. Vous êtes, je suis, le disciple que Jésus aime. Mais là, il faut faire une conversion. Je reviens à ce que je disais au point de départ. Faire la conversion du Dieu de l'Ancien Testament au Dieu du Nouveau Testament, du Dieu de l'Évangile, du Dieu qui était là pour punir et récompenser, un Dieu qui nous aime, sans réserve, qui a envoyé son Fils. Ça suppose une conversion, pas simplement des mœurs et de vie, c'est une conversion du cœur. Dieu m'aime tel que je suis. Pas tel que je voudrais être, tel que je devrais être, c'est tel que je suis. J'ai déjà eu l'occasion de parler avec des témoins de Jéhovah, et quand je disais que Jésus m'aime tel que je suis, pour eux autres, j'étais absolument hérétique. Il fallait que je me convertisse dans leur cœur. Se convertir, c'est se convertir au témoin de Jéhovah. Il fallait que je me convertisse pour que Dieu m'aime. La réalité est bien différente. Dieu m'aime tel que je suis. Et si j'accepte qu'il m'aime tel que je suis, à ce moment-là, je commencerai à devenir meilleur. Je commencerai à être plus patient d'abord avec moi-même, plus tolérant avec moi. Et à ce moment-là, peu à peu, je poserai des gestes de bonté, de miséricorde, d'attention. Mais le plus important, le cœur, c'est de se savoir que Dieu m'aime tel que je suis. Donc, pendant quelques instants, devant le catiné, devant ces sacrements, ici, demandons au Seigneur qu'il vous fasse comprendre. Demandons au Seigneur qu'il vous fasse comprendre cette réalité étonnante, au point que bien du monde, même parmi les chrétiens, ne sont pas capables de comprendre que Dieu nous aime. Notre Dieu à nous, c'est un Dieu d'amour. C'est ce que Saint Jean dit. Donc, pendant quelques instants, et dans notre prière, demandons au Seigneur qu'il nous donne cette grâce de se savoir aimer, sans réserve.